Mesdames, messieurs, bonjour, et c'est pour nous un plaisir de vous servir sur la fréquence de la paix. Face au ralentissement de l'économie mondiale qui a des répercussions sur la RDC, le Comité des politiques monétaires de la Banque centrale appelle le gouvernement congolais à orienter sa stratégie économique vers les secteurs agricoles. Ce comité estime qu'avec la dépréciation du franc congolais, l'importation des produits de base et la baisse des cours de matières premières, il est difficile de parler de la croissance économique. Quels seraient, selon vous, les préalables pour investir dans le secteur agricole en RDC? Le débat est en direct sur les antennes au 081-890-6315. Mais vous pouvez également nous retrouver sur la page Facebook des Paroles aux Auditeurs. Hippolyte Kapanga est à la mise en onde de cette émission réalisée par Philippe Zabongonda, qui est aussi au standard. Et Pierrot et la Meiji vous la présente sous la supervision des Julien Niamoni, fidèles auditeurs. Bienvenue à tous.
Pour participer à Parole aux auditeurs, 081 890 63 15 ou par internet pa@radiocapi.net.
Parole aux auditeurs, Pierrot et la Mégie.
Vous êtes nombreux à être branchés sur Radio Capi en ces jours, septembre 2016. Ces jours où nous profitons pour, au nom de tous les auditeurs, souhaiter un joyeux anniversaire à notre réalisatrice Julie Feza Bongonda, qui fête son anniversaire aujourd'hui au nom de tous les auditeurs. Joyeux anniversaire. Et nous revenons dans ce studio autour de cette question de l'investissement dans les secteurs agricoles proposé par les comités de pilotage de la politique monétaire de la Banque centrale, qui estime que face à la dépréciation du franc congolais ainsi qu'à la baisse des cours de matières premières sur le plan mondial, tout cela a de la répercussion sur la croissance économique en RDC, et comme ça, le gouvernement aurait bien fait de pouvoir investir dans le développement du secteur agricole pour maintenir cette croissance économique. C'est la question au centre de notre échange. Alors pour vous, quels sont les préalables pour y arriver? Plusieurs personnes sont sur la page Facebook en ce moment dans cette discussion animée autour de cette question, comme Germain Tabazé qui estime pour lui que ce n'est pas la première fois qu'on puisse avertir le gouvernement congolais sur sa politique économique. Et cette situation était déjà annoncée dans les différents débats dans l'émission Parole aux auditeurs. Mais pourquoi le gouvernement n'a jamais pensé à investir et aussi d'une manière urgente dans le développement du secteur agricole? Alain, qui nous écrit du sirop, toutes les théories économiques observées, il est effectivement aberrant de parler aujourd'hui de la croissance économique en RD Congo. La croissance économique, comme la croissance tout court, sous-entend l'augmentation de la production évaluée en valeur d'argent comme indicateur par excellence. Il est utilisé le produit intérieur brut. Cet indicateur statistique de la comptabilité nationale n'est rien d'autre que la sommation des valeurs ajoutées et créées dans l'économie. Cet indicateur permet d'apprécier la santé économique en dégageant soit la récession, qui est une réduction continue de la production, soit la stagnation où la quantité produite équivaut à celle de l'exercice passé. Il y a aussi la relance ou croissance. Bien que les taux de croissance n'indiquent pas négatif, du moins depuis 2015, il est de plus en plus négatif. Il est bon alors de reconnaître que le pays va mal et nous devons nous recenser pour y remédier, car le pire est à revenir. C'est aussi la crainte exprimée par le comité de pilotage de la politique monétaire de la Banque centrale. Et Delphin, vous êtes avec nous de Kananga, au Kasaï occidental. Bonjour et bienvenue, Delphin. Delphin, on a des petits soucis, votre ligne sera entrecoupée. Si vous pouvez vous déplacer un tout petit peu, en attendant, on prend Julien qui est à Goma. On va revenir à vous, Delphin, le temps que la ligne s'améliore entre Kikamanga et le studio. Julien, vous êtes avec nous, Julien. Bonjour, Julien.
Bonjour, Pierrot. Bonjour à tous les auditeurs de la radio Capi.
Et vous avez suivi ce plaidoyer du comité de pilotage de la politique monétaire de la Banque centrale. Alors, comment on peut arriver aujourd'hui de manière concrète à pouvoir investir dans le secteur agricole pour lui permettre de la RDC à maintenir sa croissance?
Merci beaucoup, Pierrot. Vous savez que, surtout nous qui habitons au plus près de la frontière, nous assistons à des histoires, à des histoires qui sont vraiment très alarmantes parce que vous serez surpris de voir que les endroits qui nous entourent, nous avons des grandes régions qui produisent des grands produits champêtres, mais qui ne sont pas favorisés par les autorités. Vous allez vous rendre compte que chaque fois, il y a des produits qui nous viennent de Massissi, des Rutshuru, mais pour défaut de l'impraticabilité des voies routières, les agriculteurs ont du mal à faire parvenir leurs marchandises, leurs produits dans des endroits urbains où ils les feront écouler. C'est donc quelque chose qui nous alarme tous, du fait que parfois nous sommes obligés de recourir aux produits qui nous viennent du Rwanda, alors que nous avons des bons produits qui viennent de nos villages ici. C'est donc le premier préalable de favoriser les produits locaux en rendant les routes praticables, les conditions de transport, les allégeant, pour faire en sorte que les agriculteurs puissent se retrouver en faisant parvenir leurs marchandises dans des endroits urbains où ils pourront les écouler sans vraiment assez de problèmes.
Merci beaucoup, Juliette. D'ailleurs, le comité est revenu sur le fait qu'on a une forte importation de produits de base et dans ces conditions, on ne peut pas constituer des réserves stratégiques aujourd'hui en devise et si on doit toujours recourir à l'extérieur pour importer tous les produits de base. Mais cette préoccupation de l'amélioration des infrastructures routières pour permettre à ce que le développement de l'agriculture à la base puisse être assez renforcé dans l'écoulement des produits, c'est là aussi ressort du plan d'investissement agricole 2014-2020 du gouvernement qui est basé sur une approche participative où on estime qu'il faut investir dans les infrastructures pour permettre à ceux qui sont déjà engagés dans le secteur de l'agriculture puissent facilement évacuer leurs produits. Cela peut aussi apporter des capitaux dans les différents milieux ruraux. Merci beaucoup. Julien de Goma, Delphin de Kananga, si on peut revoir avec vous Delphin, si la ligne s'est améliorée. Delphin, vous êtes avec nous. Dommage pour Delphin, il pourra nous rappeler. Josario qui nous a écrit, dit ceci, c'était déjà prévisible car le gouvernement actuel se focalisait beaucoup plus sur le secteur minier en négligeant d'autres secteurs où le secteur minier ne peut pas augmenter la croissance économique car il faut mélanger avec d'autres secteurs. C'est ça aussi l'importance de revenir sur ces rappels autour du secteur agricole. Charles Mavungu dit ceci, voilà les résultats des différentes troïkas de chaque lundi dans le bureau du Premier ministre. Alors, et au niveau aussi du ministère de l'économie, presque chaque fois, on nous parle de la croissance, on nous parle de l'amélioration du cadre macroéconomique et qui est aujourd'hui un cri d'alarme qui provient du comité des politiques monétaires de la Banque centrale pour qu'on puisse diversifier les sources de notre économie. Ça, c'est très, très important. Et c'est Maître Charles Mavungu qui nous a écrit de Matadi. Jérémy Bétopé dit ceci, l'économie en général en RDC aura toujours des problèmes car le gouvernement se focalise toujours sur le secteur minier en oubliant que l'agriculture et l'élevage, la pêche, ce sont des secteurs aujourd'hui moteurs du développement. Alors, pourquoi continuer toujours à attendre le secteur minier alors qu'on sait qu'un jour, il y aura baisse de cours de matières premières? Sylvain, vous êtes à Bounia, dans la province de l'Ituri. Bonjour Sylvain, merci d'être avec nous.
Merci beaucoup, monsieur le journaliste, et je vous salue, tout le Congo et tous les compatriotes.
Et quand nous regardons le communiqué du comité de pilotage de la politique monétaire de la Banque centrale, ils insistent sur le fait que depuis le mois de juin, nous sommes en train de connaître une poursuite du ralentissement de la croissance économique. Le 6 février 9, on va aller à 4,3. C'est que la situation peut encore être plus grave avec la dépréciation du franc congolais. Et on estime aujourd'hui qu'il faudrait que les gouvernements orientent l'investissement dans les secteurs agricoles. Est-ce qu'on peut dire, à un certain moment, nous avons eu beaucoup de débats avec vous autour de cette question, qu'on peut dire que cet appel, c'est un réveil tardif, alors qu'on aurait mieux fait depuis longtemps d'investir d'une manière adéquate dans les secteurs agricoles?
Monsieur le journaliste, il faut d'abord dire qu'en économie, les choses sont tellement resserrées qu'il faille être très prudent et très attentif pour suivre l'évolution des circuits économiques. Et donc, allez-vous comprendre que depuis quelques temps, nous échangeons avec le sujet de l'économie congolaise qui est pratiquement désarticulée. Et vous allez comprendre aussi que le système économique, le système économique, et même je dirais la politique économique, n'est pas liée aux besoins de l'économie congolaise. Pourquoi ? Parce qu'avant que je ne puisse rebondir sur cette question de ce communiqué, de ce comité de pilotage de la Banque centrale, je voudrais d'abord noter deux ou trois grandes observations. La première, c'est quoi ? C'est que lorsque vous regardez la façon dont les différents secteurs de l'économie congolaise sont gérés, vous vous rendez compte que les gens sont restés dans cet esprit primitif de connaître. Ça veut dire que les gens ne voient que ce qui est présent et on essaie de l'exploiter dans un volume le plus maximum que possible, à telle fin que l'avenir ne concerne pas le présent.
Mm-hmm.
C'est dans le début. Lorsque vous regardez la façon dont on a essayé de répartir le peuple congolais dans les différents secteurs de l'économie, vous vous rendez compte que c'est le secteur tertiaire, ça veut dire des services de communication, qui prend la majeure partie des vrais congolais, ça veut dire ceux qui sont allés à l'université, apprendre les grandes notions de combinaison économique, les grandes notions de gestion et consort. Et vous vous rendez compte que le secteur primaire, qui est le secteur basique, moteur de l'économie, là, nous avons affaire à des personnes encore primitives, qui n'ont qu'une vision de subsistance. Et vous, déjà comme ça, ne sont pas à même de produire, n'est-ce pas, des biens ou des services, de nature à anticiper, n'est-ce pas, la surexploitation, ou soit les problèmes de consommation. Troisième observation, ce qu'il faut noter aussi, c'est que nous sommes dans une économie où la santé de notre monnaie est un problème. Pourquoi ? Puisqu'il y a la circulation multiple de différentes monnaies qui viennent combattre, n'est-ce pas, l'intégrité des francs congolais. À ce moment-là, il y a déjà éponge d'une partie de l'autonomie et même, je dirais, de la souveraineté de notre franc congolais. À ce moment-là, ça vient désarticuler l'économie. Donc, lorsque vous notez ces trois observations, il sort clairement que nous sommes devant un problème de la vision économique de notre pays. Alors, aujourd'hui, regardez tout ce que les gens ont dit avant moi. J'étais dans une réunion, mais j'ai voulu quand même intervenir dans cette émission, puisque c'était capital. Regardez maintenant ce comité qui se plaint. Voyez-vous, l'économie, on ne se plaint pas. Donc, ce comité se plaint du fait que notre économie est basée sur le mine. Et c'est dangereux, monsieur. Comparez de la RDC avec les autres pays qui n'ont pas la mine. Je prends le cas de l'Ouganda. Qui est tout simplement, je tiens à focaliser sur l'économie, sur l'agriculture. Je prends l'Éthiopie. Qui a focalisé sur l'économie, sur le tourisme. Donc, lorsque vous voyez ce pays-là, on a une sorte de management de l'économie pour satisfaire un besoin. Alors que chez nous, nous sommes restés dans notre pays croyant que ce secteur de production de mines ne s'arrêtera pas. Et c'est dangereux. Je vous avoue, j'ai dit à l'émission ici, que nous sommes devant un problème du comportement de l'homme congolais. Qu'est-ce que nous faisons lorsque nous prenons la grande partie de notre capital? Ici, je parle des grands hommes, de ceux-là qui détiennent un volume important de capitaux. Vous le posez dans des banques internationales étrangères. Et alors, c'est un des décisions du fonctionnement dans le circuit monétaire, c'est-à-dire la masse monétaire qui circule ici chez nous ne correspond pas aux besoins des Congolais. À ce moment-là, comment voulez-vous que ce comité de pilotage de la Banque centrale maîtrise correctement le volume ou soit la vitesse de circulation, ou je dirais même comment je vais dire, dans l'évolution, l'évolution de la masse monétaire des francs congolais. C'est difficile, monsieur le journaliste.
Mm-hmm.
Et donc, moi, je parie qu'il faut que nous puissions. Allô?
Oui, allez-y, on vous écoute, Sylvain.
Oui. Moi, je me dis qu'il faut aujourd'hui que nous puissions recommencer notre économie. Comment cela? Nous devons interdire aux gens qui ont beaucoup de capitaux de l'investir à l'extérieur, à l'étranger, comme ça se fait en France, monsieur. Voyez-vous, aujourd'hui, en France, il y a une loi. Si l'interdit un ministre puisse épongeer même un euro à l'étranger. Pourquoi ça, vous savez? Les mesures monétaires et financières sont simples. Ça veut dire que à un nombre X de biens à consommer correspond une masse monétaire, un volume de masse monétaire. Alors, lorsqu'il y a des gens qui ont des capitaux importants, mais préfèrent le placer dans les offshore, dans les comptes offshore, et où ça se passe dans des activités extra-frontalières par rapport au lieu naturel de la situation de ces capitaux, ça crée un déséquilibre. Mm-hmm. Donc, je dis ensemble avec ce comité de pilotage, c'est que nous sommes dans le risque demain que non seulement il y aura dépréciation des valeurs des francs congolais, mais nous risquons d'aller tous va attraper une autre monnaie, puisque le franc congolais va connaître une chute terrible.
Tout cela est exprimé dans ces communiqués du comité des politiques monétaires de la Banque centrale que nous avons ici au studio. Mais quand la banque appelle le gouvernement congolais à pouvoir orienter le développement du secteur économique vers l'agriculture, parce que c'est un débat que nous avons déjà eu plusieurs fois, mais d'un côté...
Vous ne devez pas seulement orienter l'économie vers le secteur agricole, non. Quel est le secteur du tourisme? Écoutez, le Congo, c'est un pays touristiquement fort. Seulement, nous ne sommes pas les choses, monsieur. Moi, je veux citer le cas de l'Éthiopie. Je pense que vous avez fait une fois l'Éthiopie, vous connaissez de quoi composer l'économie sociale.
Mm-hmm.
Regardez le pays d'Érythrée. Qu'est-ce que c'est là? On ne peut pas seulement orienter l'économie du Congo vers l'agriculture. Orientons l'économie congolaise vers le tourisme, vers la pêche. N'est-ce pas?
Mm-hmm.
Nous devons aussi créer d'autres économies qu'on n'a jamais créées. D'un coin de la République, on paye la taxe, on appelle la taxe sur le parking. Je n'ai jamais vu, moi, j'arrive à ce sujet, je n'ai jamais vu ça aussi. Ce sont des recettes que nous manquons dans notre économie.
Mm-hmm.
Écoutez, mm-hmm. Il y a des services publics. Est-ce que nous payons pour cela?
Et alors, pour vous, Sylvain, vous estimez qu'au-delà du secteur agricole, il faudrait aujourd'hui faire un plan de développement économique axé sur plusieurs secteurs, que ce soit les tourismes, que ce soit l'élevage, que ce soit... C'est-à-dire qu'il faut au moins diversifier, parce que je me rappelle bien que plusieurs fois, le Premier ministre a évoqué cette question de la diversification de l'économie congolaise, mais l'inquiétude au niveau du comité des politiques monétaires, c'est qu'on est resté plus dans la déclaration de l'intention politique, mais malheureusement, il n'y a pas eu de date concrète d'investissement dans tous ces secteurs pour permettre à ces secteurs aujourd'hui puissent mobiliser des capitaux pour permettre au pays de maintenir sa croissance. Merci beaucoup, Sylvain, pour l'ensemble de pistes et de solutions et de propositions. Il faut aller au-delà du secteur agricole. On retourne à Kinshasa. Maître Likonza, bonjour. Maître Likonza, bonjour.
Bonjour Pierrot et bonjour à tous les auditeurs de Radio Capi.
Et pensez-vous aujourd'hui, dès lors qu'on est en train de se battre pour maintenir la valeur de la monnaie, c'est vrai qu'il y a la baisse des cours des matières premières et on peut avoir un investissement aujourd'hui urgent dans les pays où les problèmes des budgets se posent déjà pour pouvoir dans un temps record relancer d'autres secteurs économiques qui puissent permettre aujourd'hui au pays d'éviter ce qu'on peut considérer comme une catastrophe économique dans les années à venir.
Bien, merci. Je pense que les débats s'ouvrent au temps convenable où bientôt il y aura la rentrée parlementaire et la session sera essentiellement budgétaire. Les problèmes budgétaires pourraient être réglés par rapport à l'inquiétude de tous les Congolais. Et je pense que la proposition faite va dans le sens que je peux dire de la diversification de l'économie, comme vous venez de le souligner tout à l'heure. Il n'y a pas que le secteur agricole, mais à mon avis, je suis tout à fait d'accord que l'on commence d'abord par le secteur agricole, puisque c'est un secteur qui pourra permettre au gouvernement congolais d'assurer la sécurité alimentaire aux Congolais. Ça, c'est ce qui est essentiel aujourd'hui. La sécurité alimentaire est en danger, connaît beaucoup de problèmes, puisqu'on s'est plus focalisé sur le secteur minier. Et le FMI, à travers son conseil d'administration, avait suggéré que l'on puisse procéder à la modification du code minier et des DMT, et compte tenu de tous les aléas que nous avons aujourd'hui à travers le monde. Et nous avons suivi la dernière réunion de la Troïka où le gouvernement a fait allusion à la crise qui sévit dans des pays limitrophes et qu'il était déjà en train de prévenir cette crise-là. Et aujourd'hui, on dit qu'il faut développer le secteur agricole. Moi, je pense que c'est très important puisque dans notre pays, nous avons un nombre très élevé de terres arables qui sont jusqu'à aujourd'hui inexploitées. Si on peut diversifier, que l'on commence d'abord par le secteur minier. Et la croissance économique dont on parle souvent ne garantit pas la survie des Congolais, on doit le dire. Puisque L'INSEMI avait sollicité les autorités congolaises à cause du taux élevé de la croissance à 9,2%. Et aujourd'hui, ce taux de croissance économique ne reproduit rien en termes de survie pour les Congolais. Et même les richesses dont on a toujours soutenu dans notre pays, les pays riches, mais leur redistribution n'a pas d'impact sur la vie des Congolais. C'est pourquoi aujourd'hui, si vous le remarquez, nous sommes informés de ce qui se passe dans l'ancien Grand Équateur avec la fermeture de l'usine de l'abraliement en Bandaka. Il y a les agriculteurs qui sont en train de perdre leur stock parce qu'ils ravitaillaient, ils approvisionnaient l'abraliement achetait les maïs, les riz, etc. Et donc aujourd'hui, le gouvernement a tout intérêt. Et ce n'est pas seulement le devoir du gouvernement central. Et au niveau de chaque province, les gouverneurs doivent s'y atteler pour donner plus d'importance à l'agriculture. Ça,
oui.
C'est vraiment la priorité.
Mais c'est ça la priorité des priorités. Mais rappelons quand même que dans cette inquiétude, le comité des politiques monétaires a insisté sur ces 28 mesures que le gouvernement avait prises dernièrement. Maître Likonza, on en avait analysé deux ou trois où le gouvernement a estimé qu'il fallait diversifier l'économie. Est-ce que vous avez l'impression que dans la déclaration de la politique et de l'intention, c'était mieux? Est-ce qu'on a pu concrétiser la diversification de cette économie aujourd'hui pour échapper à cette inquiétude autour de la croissance, Maître Likonza?
Bon, c'est ça le problème que nous avons dans notre pays. Nous avons toujours des bonnes intentions. Nous sommes plus excellents quand nous écrivons, quand nous débattons et quand nous publions des textes. Mais pour les appliquer, ça pose problème. Mm-hmm. Les intentions sont plus excellentes. Mais maintenant, la faisabilité,
c'est la faisabilité.
De l'économie, voilà. Le ministre de l'agriculture. Mm. Nous avons des ministres très intelligents, des professeurs d'université. Mais sur le terrain, nous avons besoin de sentir ce qu'ils ont en tête comme intelligence.
Rappelons, comme je le disais en début d'émission, que la RDC qui a adopté ses plans d'investissement agricole 2014-2020, mais il fallait aussi passer à l'étape de mobilisation des ressources parce que cela demandait un coût estimé à près de 5 milliards de dollars américains, mais c'est passé entre 2014 et 2020. Cela pouvait permettre à ce que le secteur agricole soit assez développé et que nous puissions petit à petit échapper à toutes ces conséquences liées au secteur minier. Merci beaucoup, Maître Likonza. Archange, vous êtes à Kikwit dans la province de Kwilu. Bonjour, Archange. On vous écoute.
Oui, c'est bien. Tout le monde dit qu'on doit diversifier l'économie congolaise. Mais c'est bien, on doit diversifier l'économie. Mais il faut aussi tenir compte des enjeux et des capacités de chaque province. Si le Katanga doit produire les cuivres, c'est bien. Si le Nord Kivu doit produire les coltan, cobalt, tout ça, c'est bien. Mais ceux qui produisent là, qu'est-ce qu'ils vont manger si leur sécurité alimentaire n'est pas assurée? Qu'est-ce qu'ils vont manger et comment est-ce qu'ils vont avoir la force de bien travailler? Nous devons, s'il faut s'atteler, c'est vrai, on a parlé de plusieurs secteurs, les tourisme, mais je ne vais pas revenir là-dessus, je vais m'atteler sur l'agriculture. Prenons le cas de la province du Bandundu avec ce que nous avons appelé dans l'ancien temps, la Ouillerie, comment on appelle ça, la Pelletette. La Pelletette qui a des plantations de palmiers un peu partout, bien que cela a vieilli. Pourquoi ne pas investir dans ce domaine-là? Essayer de renouveler les palmiers, essayer de financer, revoir les industries qui faisaient la transformation de l'huile de palme. Et c'est qui faisait la force de la province du Bandundu. C'est aussi l'agriculture. C'est dans ces sens-là qu'on va essayer de booster notre économie. Parce que dans l'agriculture, c'est tout le monde qui se retrouve. Si vous prenez le cas des minéraux, tous ceux qui investissent dans les domaines des minéraux, où est-ce qu'ils cachent leur argent? C'est à l'extérieur. Mais lorsque nous parlons de l'agriculture, tout le monde fait l'agriculture, tout le monde se retrouve dans l'agriculture et tout le monde bénéficie de l'agriculture. Lorsque tout le monde va se mettre à produire dans l'agriculture, c'est tout le monde qui paiera les taxes. Mais lorsque nous prenons le minéraux, il y a qui l'entreprise? Tous les engagés ne payent pas les taxes, mais si l'entreprise fait, qu'il paye les taxes. Mais dans l'agriculture, c'est chaque paysan, chaque agriculteur, chaque personnes qui travaillent dans les secteurs
qui perdent bien
ces marchandises, peut-être dans les grands centres
urbains, c'est important ce que vous avez dit, Archange, parce que le gouvernement avait estimé, même dans ses plans de développement du secteur agricole, qu'il fallait réhabiliter les plantations et les fermes abandonnées. Les cas, par exemple, de la province de Bandundu, PZ, il y a eu d'autres fermes, d'autres plantations. Et voilà. Mais vous estimez qu'il fallait que cela soit axé sur des politiques concrètes. C'est ce qui peut aussi, par ricochet, lutter contre la pauvreté plutôt que se focaliser sur les secteurs miniers. Dès lors que ce qui se passe dans les secteurs miniers, il rapatrie plus l'offre que plutôt à l'extérieur qu'ici au pays. Merci beaucoup.
S'il vous plaît, il faut aussi voir quelle sorte d'agriculture. Ce n'est pas déjà des gros projets comme Boukanga, l'autre où le paysan ne se retrouve pas. On doit faire l'agriculture qui va amener chacun à se retrouver. Les gros projets tels que Boukanga, l'autre. On importe même la main d'œuvre, on importe tout. Les paysans qui avaient fondé leur espoir, si ces genres de projets ne se retrouvent pas. Donc on doit essayer d'encourager le paysan, on doit mettre à la disposition de tous les paysans, les réunir en association, mettre à leur disposition les ingénieurs qui vont les encadrer, voir dans tel contre quel combat produit, qu'est-ce qui est rentable. Si on ne tient pas compte de tous ces facteurs-là, parce qu'on veut relancer l'agriculture, on se met à faire des projets bidons comme Boukangale, mais ça n'a aucun impact.
Merci beaucoup, Archange. Nous avions fait plusieurs émissions autour du projet Boukanga Lonzo, mais quand on regarde l'intention déclinée dans ces plans d'investissement du secteur de l'agriculture, tout est prévu, l'encadrement des paysans, la création des institutions de microfinance pour financer, bien sûr, les paysans, mettre à leur disposition les infrastructures nécessaires, ainsi que les ingénieurs formés qui puissent les aider à s'organiser en coopérative. Voilà, tout cela a été prévu, mais faudrait-il aujourd'hui les concrétiser comme souhaite le comité de politique monétaire de la Banque centrale. Herman Bonio, vous êtes avec nous, on va revenir à vous. Et Maître Hermazani qui est à l'ICACI, 081-890-5315 pour intervenir en direct dans ces magazines et consacrer bien sûr au développement du secteur agricole selon le souhait présenté et exprimé par le comité de politique monétaire de la Banque centrale qui estime que face à la dépréciation du franc congolais, à la baisse des cours de matières premières et cette économie mondiale qui a des répercussions directes sur l'économie de la RDC, il serait mieux aujourd'hui pour le gouvernement congolais de plus orienter son développement économique vers les secteurs de l'agriculture. Et pour vous, quels sont les préalables pour y arriver? C'est la question au centre de notre échange.
Au pays des léopards, le ballon est roi. Et le football a désormais son émission. Au Capitouf, chaque dimanche de 18 à 19h. Autour d'un invité, l'équipe du sport vous invite à réagir en direct sur l'actualité après les matchs du jour. Coupe, championnat, Ligue des champions, Radio Capi vous donne la parole. Au Capitouf, c'est en direct et c'est le dimanche de 18 à 19h. Appelez le 081-890-6489.
Nous revenons ici à Kinshasa. Herman Boyo, vous êtes avec nous. Bonjour.
Bonjour.
Merci de nous avoir contactés autour de cette question de la diversification de l'économie de la RDC. Vous avez suivi les uns et les autres ces plaidoyers du comité des politiques monétaires de la Banque centrale. Quel est votre point de vue?
Écoutez, d'abord, je remercie les différents auditeurs parce que je trouve qu'ils ont été tout à fait pertinents, même si parfois la passion semble la porter sur l'analyse objective. C'est vrai qu'on pourrait tenter comme ça de jeter le bébé et l'eau du bain. Je crois qu'il faut d'abord rendre hommage au gouvernement. La diversification a déjà été entamée, c'est pas quelque chose de nouveau. Pour qu'en allant, on participe de cette logique. C'est vrai que c'est pas suffisant, mais on peut pas non plus dénigrer un projet comme ça. On parle bien dans cette note de conjoncture d'une diversification et on va plus loin en précisant que ça a des répercussions sur la croissance, sur la parité de notre monnaie nationale. C'est-à-dire que c'est une question un peu complexe qu'il faut appréhender avec beaucoup de sérieux. J'ai deux propositions, je ne veux pas rentrer dans une polémique stérile, je crois que les efforts des uns et des autres sont à louer, les auditeurs ont le droit de s'inquiéter, ils ont bien raison de le faire parce que ça booste un peu, mais l'idée quand même centrale, c'est que on doit effectivement, lorsqu'on parle de diversifier une économie, penser aux investissements, d'accord? Ce sont les investissements qui finalement vont raffermir cette économie. Or, en termes d'investissement, on ne fait pas beaucoup d'efforts. Je parle de trois types de choses. Un investissement interne, l'État investit avec l'argent. Généralement avec l'argent collecté, le fruit de notre économie, donc les impôts. Là-dessus, il faudrait une grande réforme fiscale.
pour que l'État arrive à récupérer effectivement de l'argent du secteur économique. Ça, c'est tout à fait primordial. Deuxième chose, on parle d'un secteur qui potentiellement est productif, un secteur qui peut produire énormément de richesses, c'est le secteur des assurances que je connais bien pour cause. Je pense que cette réforme-là est indispensable et tout à fait nécessaire, et pour l'instant, on attend toujours que ça se mette en place, mais ça va réellement apporter quelque chose à notre économie. Et on évalue à peu près à 1 ou 2 points de croissance rien que pour ce secteur-là, qui est totalement nouveau, qui est à mettre en place. Et ensuite, on parle de d'investissements extérieurs. L'exercice de business, on est à peu près dans la période où bientôt on va encore nous donner le palmarès. Il est important que nous puissions être plus attractifs pour des investissements étrangers extérieurs. Or, aujourd'hui, il faut avouer que nous ne sommes pas attractifs. Mm-hmm. Nous ne sommes pas attractifs pourquoi ? Parce qu'on envoie d'abord un message politique qui est pessimiste. Ça fait peur. Donc, ça participe aussi au ralentissement. Il ne faudrait pas faire semblant. Mm-hmm. On est dans la dynamique du dialogue, c'est bien. Mais je pense qu'il faudrait dissocier les choses, continuer à avoir un discours positif au niveau économique. Et c'est là où je me demande même en opportunité si ce type de notes ne peuvent pas d'abord être à un usage interne avant d'être publiées tout à fait en usage externe, parce que nous sommes dans une période où le moindre signal lancé par notre économie est de nature à encourager ou à décourager les investisseurs. Voilà mon apport.
Mais oui, mais Herman Bojo, si je peux vous garder encore, mais je pense que vous avez évoqué l'investissement interne. Vous estimez qu'il faut aujourd'hui une réforme de notre fiscalité, mais rappelons quand même qu'on a mis en place la TVA. On estimait que ça pouvait permettre à l'État de pouvoir collecter l'impôt d'une manière plus efficace, mais après, il y a eu assez de critiques. Même le ministre de l'Économie qui a estimé que ce qui a été fait avec la TVA ne pouvait pas amener facilement assez que l'État puisse collecter l'impôt comme il faut. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a eu quand même un déficit en termes d'études de cette réforme fiscale qui était très importante, mais aussi en termes de communication auprès de la population?
Oui, tout à fait. Je pense que la TVA est une bonne réforme fiscale. Généralement, d'ailleurs, dans beaucoup de pays, nous retrouvons la TVA. Après, c'est un problème d'assiette. Est-ce qu'on est plus efficace à un taux à 18, à un taux à 15? Ce sont des débats d'économistes. Je vais bien connaître ces débats-là un jour. Mais moi, je pense que la TVA a été une bonne chose, à part qu'on n'a pas fait de la pédagogie autour, on n'a pas bien expliqué, et même cette TVA-là, on la récupère pas correctement. Mais quand vous prenez d'autres pays, j'entendais un auditeur tout à l'heure faire allusion à la France, un pays que je connais bien, où j'ai fait mes études, où j'ai travaillé. Bon, d'abord, je vais corriger juste ce bête, c'est pour info, hein. Il n'y a aucun pays qui interdit qu'on ouvre un compte à l'étranger, pas plus la France qu'autre chose. Par contre, ils ont une fiscalité qui est suffisamment dissuasive et qui fait que lorsque vous ouvrez un compte à l'étranger pour y investir, vous devez d'abord payer votre fiscalité chez vous. Donc, c'est typiquement le genre d'instrument que vous pourrez avoir. Mais je peux vous parler de la CSG, qui a, pour moi, l'un des impôts qu'on appelle contribution, mais le plus juste, parce que il est universel. Il s'applique à tout le monde. Même le petit Congolais qui gagne peu, je pense que bien expliqué, aurait tout intérêt à payer une petite partie à cet effort collectif, puisqu'on parle de suffisance alimentaire, de toutes ces choses-là qui touchent les citoyens. Si on explique à un citoyen parce qu'on te paye $50 et qu'il y a $5, donc à peu près 10% de ta paye qui va aux impôts pour qu'on te garantisse une eau potable, une électricité et telle chose, donc les gens sont capables de comprendre. Donc l'idée, c'est quand même de trouver le moyen d'avoir une fiscalité qui soit réellement juste. On a parlé du secteur minier. Donc, quand on voit tous les régimes d'exonération, il y a des entreprises qui produisent des milliards, effectivement, les auditeurs ont raison. Et ils payent quoi en impôts? Les années où ils sont les plus productifs, c'est là où ils sont le mieux exonérés. Donc à la sortie, lorsqu'ils produisent peu parce qu'ils ont déjà amorti leur investissement et tout, ils commencent à payer des impôts sur la base des chiffres d'affaires qui sont totalement erronés. Il faudrait inverser la courbe. Donc il y a une réflexion fiscale à avoir. Je vais pas ici détailler.
Oui, vous avez raison. Mais vous permettez, parce que vous avez quand même présenté ces trois secteurs, pour revenir aux assurances, parce que vous avez géré la Société nationale d'assurance avec le nouveau code, on a pensé qu'il fallait rapidement mettre en place les animateurs de l'autorité de régulation, et ça pouvait facilement permettre à ce que ça puisse évoluer, mais quand même ça fait presque plusieurs mois qu'on est resté stationnaire à ces niveaux. Mais comment on peut faire pour accélérer cette réforme, comme vous l'avez dit, qui puisse facilement apporter des investisseurs?
Non, ben écoutez, je crois qu'il y a des choses qui m'appartiennent en tant qu'économiste, en tant que financier de formation, de dire. Mm-hmm. Il y a des choses qui ne m'appartiennent pas. Vous savez que cette décision est une décision politique maintenant, sera prise probablement au moment opportun.
Merci.
Mais encore une fois, il n'y a pas le feu au lac. Hein. Je ne voudrais pas non plus
Merci.
Commencer à alarmer les gens, c'est pas parce qu'on ne l'a pas fait. C'est juste de dire que ce sont des résultats qui auraient pu compter en 2015.
Mm-hmm.
De ne l'avoir pas fait en 2015, ce sont des résultats qui auraient pu compter en 2016. Je vous rappelle que c'est au moins un, voire deux points de croissance, très clairement,
oui.
puisque ces générateurs d'emplois, ça va mobiliser énormément d'épargne. Et c'est cette épargne-là, vous savez, en assurance, on a cette pyramide inversée,
mm-hmm.
où nous prenons l'argent des contribuables, donc de l'assuré aujourd'hui, pour investir pendant peut-être 10 ans, le temps que lui revienne chercher son argent. Donc c'est tout à fait des économies qui sont utiles à notre système économique.
Mm-hmm.
Et cet argent-là, nous nous en privons, nous nous en passons comme si on en avait assez ailleurs. Donc, c'est une réforme qui se fera
mm-hmm.
aujourd'hui ou demain. Elle finira par se faire. Elle est indispensable.
Merci.
Mais simplement, entre-temps, voilà, le Congo a besoin de soutenir sa croissance parce que nous avons une démographie que nous ne maîtrisons pas. Et c'est vrai, quand on fait des simulations de croissance, quand vous ajoutez l'élément démographique là-dessus, vous comprenez qu'il n'y a pas de type d'économie et qu'il faut maintenant avoir une vision globale du système pour faire des économies partout où on peut en faire et créer des richesses partout où on peut en créer. Et c'est comme ça que nous allons sauver notre économie. Voilà.
Merci beaucoup, Herman Bolio, de nous avoir accordé de votre temps et de cette intervention. Merci aux uns et aux autres. Nous allons maintenant quitter Kinshasa pour l'ICASI. Maître Ramazali, bonjour. Maître Ramazali, vous êtes avec nous. Bonjour. En attendant que la liste s'améliore avec Maître Ramazali, nous allons retrouver Alain Bolodjoua qui est à Isiro. Alain, nous avons eu à exploiter votre message tout à l'heure et vous avez dit toutes les théories économiques observées, il est effectivement aberrant aujourd'hui de parler de la croissance économique en RD Congo et vous avez essayé d'expliquer votre pensée. Bonjour Alain.
Bonjour Radio Kati, bonjour à vous, bonjour à tout le monde.
Mmh. On vous écoute.
Bon, ben, ce qui est vrai, lorsqu'on parle de la croissance économique, on voit une augmentation de la production évaluée en valeur d'argent. Mais aujourd'hui, nous ne sommes pas en face d'une croissance, dès lors que le taux va du haut vers le bas. C'est-à-dire, quelque part, il y a une diminution
mm-hmm.
en termes de production, et ce qui me pousse, et ce qui doit pousser d'ailleurs toute économiste sérieux, de conclure qu'il n'y a pas croissance. Mais ce qui est vrai, le contrôle, l'indicateur par excellence que nous utilisons généralement en économie, c'est-à-dire le produit intérieur brut, PIB, on compare par rapport à une certaine période. Et c'est cette année de référence qui nous permet de voir si effectivement nous sommes en face d'une stagnation, c'est-à-dire une augmentation, une diminution, une récession, c'est-à-dire une baisse, ou une relance, ou carrément une croissance. Et si nous prenons notre PIB, eh bien, on n'est pas en face d'une croissance, tout simplement parce qu'il n'y a pas une augmentation. Et cela est dû nécessairement par le fait que l'économie congolaise est quasiment extravertie. Et dès lors que la demande globale au niveau international diminue, eh bien, nous sommes affectés. Et c'est que moi, je voudrais dire que nous ne sommes pas en face d'une situation fataliste où on doit pleurnicher. Mais ce qui est vrai, c'est qu'il y a quand même des problèmes qui résulte non seulement des lacunes chroniques que connaît notre pays, mais aussi de certains choix contradictoires que nous prenons au niveau national. Je prends l'exemple, j'ai fait le tour pratiquement de toute la République. Il y a maintenant, présentement, je suis au niveau de la province de Routouélé. J'étais à Ituri, j'étais à Kisangani, j'ai fait pratiquement le tour des grands axes. Mais malheureusement, qu'est-ce que je constate? Ce que nous voyons à Kinshasa, c'est-à-dire le caractère informel de notre économie ou de l'activité économique, s'amplifie de plus en plus dans cet espace. C'est-à-dire nous sommes en face d'une économie duale, où quelque part il y a une certaine mépris de ce qui est formel, et d'autre part il y a aussi une économie souterraine qui produit suffisamment, mais qui n'est pas prise en compte dans les statistiques comptables, c'est-à-dire dans la comptabilité nationale, tout simplement parce que c'est un secteur qui est dans l'informel. L'important aujourd'hui, c'est de voir comment nous pouvons relancer notre économie et lui permettre d'avoir des béquilles avant que nous arrivions, n'est-ce pas, à booster pratiquement la croissance. C'est-à-dire, en quoi faisant, on doit relancer la production. En relançant la production, on doit viser la diversification de cette production. Dans la province actuelle de Haut-Touéné, il y a des potentialités énormes, mais qui ne sont pas mises en exploitation. des gens qui sont en activité mais qui vivent encore dans la pauvreté. Dès lors qu'on cherche à optimiser les potentialités, à optimiser nos actions, et qu'on ne met pas tous les Congolais en position de payer leur croissance économique, eh bien, nous sommes en face d'une croissance qui n'est pas désirable. Nous sommes en face d'une croissance de appauvrissante, qui appauvrit davantage la population.
L'archange de Kikuit tout à l'heure disait que dans la réflexion autour de cette diversification de l'économie pour la consolider et se départir du secteur minier, il serait important de faire une étude profonde pour savoir comment développer l'économie en fonction des enjeux et des capacités de chaque province. Est-ce que vous avez cette impression, comme vous l'avez dit, vous venez de faire le tour presque du pays, que nous avons cette politique économique axée sur les enjeux et les capacités de chaque province aujourd'hui?
Bon, c'est qui est vrai. Lorsqu'on enclenche le processus de la croissance, qui est un processus, on doit commencer d'abord à mettre sur pied une politique économique qui doit intégrer toutes les variables nécessaires. On doit avoir un modèle de développement qui doit orienter les actions. Comment voulez-vous qu'il y ait décentralisation alors que toutes les grandes provinces sont enclavées? Comment voulez-vous qu'il y ait relance de l'économie dehors que dans une province telle que le Haut-Ouest, il n'y a aucune industrie, il n'y a que le commerce, tout le monde est dans le commerce, alors que nous savons que le commerce apporte une faible valeur ajoutée. Donc quelque part, nous voulons une chose au contraire. Ce que nous devons faire, c'est d'abord, comme l'ont dit les prédécesseurs, on doit répertorier tout ce que nous avons comme potentialité. Mm-hmm. On doit voir le marché international, c'est-à-dire ce que nous pouvons apporter au niveau international. Notre plus grand problème, comme je l'avais dit la fois passée, nous sommes en face d'un cercle vicieux de la pauvreté. C'est-à-dire que nous n'avons pas une forte capacité d'investissement. Cela est dû par le fait qu'il n'y a pas une forte propension à épargner. Tout ça pourquoi? Parce que nous voulons relancer la croissance sans pour autant inciter cette croissance par la production, par la consommation. On doit donner du revenu aux Congolais. On doit permettre à ce que nous ayons les petites et moyennes entreprises. Ou carrément les nano-entreprises. Quand je dis nano-entreprises, c'est-à-dire que dans ces petites entreprises qui existent déjà de manière informelle, que nous puissions les formaliser en leur octroyant plus de capacités capitalistiques afin qu'ils puissent accroître leur productivité. Mais malheureusement, juste à cause du concret, nous sommes encore en train de patauger, tout simplement parce qu'il y a des choix contradictoires. C'est vrai que dans la politique économique, nous avons besoin d'une option politique. Mais cette politique n'est pas politicienne. On ne doit pas faire la publicité sur ce qui n'existe pas. On doit chercher d'abord à capitaliser ce que nous avons et permettre à ce que tout Congolais puisse participer
à
la structure du PIB. Je ne peux pas constater malheureusement pendant mon séjour. Allez.
Merci beaucoup Alain Bolodua. Vous avez insisté beaucoup sur des choix, éviter des lacunes chroniques, mais aussi éviter des choix contradictoires qui doivent être basés sur une étude sérieuse. Notre ami Archange venait de le dire, en tenant compte des variables, et c'est de cette façon qu'on peut formaliser cette croissance économique. Jean-Luc Moukoutou dit ceci: une vraie croissance économique doit s'inscrire dans le long terme et faire face aux éventuelles crises économiques du pays, mais le cas de la RDC est un paradoxe puisque le gouvernement a cessé de s'inventer des croissances économiques ces dernières années. Il faut maintenant que les excès budgétaires censés être réalisés pendant cette période d'expansion puissent désormais faire face à la crise et créer ainsi l'équilibre. Bintou, vous êtes avec nous de Kimpese dans les Congo central. Bonjour et bienvenue.
Bonjour M. Thierry, bonjour à tous les auditeurs, merci de m'avoir accordé la parole.
Donc, on vous écoute.
Bon, le premier préalable, en dehors de ce que nos amis viennent de dire, c'est la volonté. Puisqu'il ne suffit pas d'avoir des slogans comme nous les avons toujours entendus depuis une cinquantaine d'années, l'agriculture, priorité des priorités, pendant que dans les faits, on n'investit absolument rien. Si vous regardez les budgets, nos budgets antérieurs et les budgets actuels, l'argent investi dans les domaines agricoles représente quel pourcentage pour que nous puissions atteindre un résultat et diversifier notre économie. Notre pays dispose de plus ou moins 80 millions de terres arables sur 2 345 km carrés. Mais si quand nous sillonnons nos provinces, de Kinshasa jusqu'à Tchela, ou bien de Kisangani jusqu'au nord Kivu. Mais il n'y a que des brousses et des arbres partout. Vous ne pouvez pas trouver comme dans d'autres pays quand vous y allez, et qu'il y a de cultures à travers toutes nos routes. Donc l'agriculture en République démocratique du Congo est encore à l'état primitif. Il est bloqué par plusieurs points. Entre autres, il faut ajouter parmi les éléments qui ont été évoqués, il y a l'absence de voies de communication. Il faut y insister beaucoup, puisque tant à Kinshasa, nous sommes en train d'importer du riz, et au même moment, à Bumba, il y a le riz qui manque d'acheteurs. Donc, les secteurs de production par rapport à doivent se communiquer avec les secteurs de consommation. Pendant que nous sommes en train de parler de l'agriculture, le gouvernement n'investit pas assez, comme vient de le dire M. Herman Mboyo. Donc, il y a l'inexistence d'investissement dans les secteurs agricoles. Donc, il n'y a pas de banque agricole pour donner des crédits aux gens qui veulent faire l'agriculture. Mm-hmm. Et donc, on ne peut pas faire l'agriculture avec la houe et espérer de grands résultats demain pour relever l'économie de la RDC. Et le troisième point, ce qu'il fallait ajouter, c'est la négligence du secteur agricole par la jeunesse. Et l'exode, cette négligence a abouti à l'exode rural. Vous allez voir que toute la main d'œuvre active qui devait normalement se consacrer à l'agriculture s'est tournée vers des grandes villes et pour venir parler musique et politique. Et pendant que ce sont des vieilles personnes qui vont aller faire l'agriculture, et c'est à partir de cette production-là que la jeunesse acquiert dans des milieux urbains attend que les parents leur envoient quelque chose encore dans des grandes villes. Mm-hmm. Pendant qu'équipes qui ont la force de travailler ne travaillent pas. Tout ça, c'est lié à quoi? C'est à l'absence d'orientation de la jeunesse dans le secteur agricole par l'État congolais. L'État congolais ne fait la publicité plus pour les diamants, l'or et les minéraux, mais il ne fait pas plus la publicité, il ne vante pas l'agriculture. Et si vous allez dans nos universités, vous allez trouver que la jeunesse actuelle aime souvent, vous trouvez des milliers de personnes dans la filière des droits, économie, métiers, et pas dans l'agronomie. Pourquoi? Puisque c'est un secteur qui est négligé. Et les gens ne s'y intéressent pas, bien qu'on aime manger et boire, mais on ne sait pas que ça provient de l'agriculture. Mm-hmm. Donc il faut vraiment y penser. Et terminer, il y a l'insécurité. Il y a le problème de l'insécurité. Il y a des milieux où les jeunes s'intéressent à l'agriculture, comme à l'Est, à Beni, Wicha et autres, mais ces gens-là ne peuvent pas accéder à leur terre, ne peuvent pas cultiver, puisque le milieu est infecté par les tout ce qu'il y a comme sécurité. Mmh. Alors, ils ne peuvent pas accéder. Quand ils vont là-bas, on les tue. Alors, ils ne peuvent pas faire l'agriculture. Mmh.
Merci beaucoup, Bintou. Vous avez évoqué cette question de l'investissement interne, et M. Herman Bono venait de le dire. Mais quand on regarde aujourd'hui notre contribution, la contribution du budget de l'État dans le secteur de l'agriculture, le protocole de Maputo, qui est tous les pays africains avaient accepté de remonter jusqu'à 10% le budget dans le secteur de l'agriculture, c'est à peine qu'il y a des pays qui ont fait beaucoup d'efforts, comme le Rwanda, par exemple, comme la Côte d'Ivoire et les autres. Mais pour nous, nous avons encore des problèmes sérieux pour que nous puissions remonter notre budget au moins à 10% qui doit être consacré au secteur de l'agriculture. Cela peut permettre même qu'il y ait des investissements comme du genre les Rwanda, comme il le disait Bukangalonzo, si on pouvait avoir ces parcs, mais plus orientés aussi vers l'encadrement de paysans. Et vous estimez que ce sont là les éléments qui doivent accompagner ce souci de pouvoir investir dans le secteur de l'agriculture pour diversifier notre économie. Merci beaucoup. On retourne à Kinshasa avec vous, Félicien. Vous avez eu l'occasion de suivre les uns et les autres. Il y a Herman Bonnier qui a beaucoup insisté sur d'autres axes qui peuvent permettre aujourd'hui au pays de pouvoir rentrer des capitaux sans seulement atteindre le secteur minier. Alors pour vous, quels sont les préalables pour y arriver, Félicien?
Bien, merci beaucoup, Pierrot. Je vous salue et je salue tous les auditeurs de Radio Capi. Moi, je vois que tous les compatriotes qui m'ont précédé ont parlé de tout. Je les remercie. Mais ce qu'ils n'ont pas parlé, que je peux parler maintenant, c'est qu'ils n'ont pas tenu compte que le pays a un problème d'hommes. Et au niveau surtout de ce qui nous gère, et que le pays a un problème d'antivaleur, comme la corruption, le clientélisme, le tribalisme, et qui font que nous puissions reculer au lieu d'avancer, parce que nous ne pouvons pas comprendre que nous soyons aujourd'hui à ce niveau-là de rappeler l'agriculture, pourquoi on ne fait pas de l'agriculture, pourquoi on ne fait pas ceci, cela. Mais on a oublié que depuis 1960 jusqu'à 1963, nous avons été à l'école primaire et secondaire, et il y a des brochures qui parlent de l'économie congolaise à ce moment-là et comment nous étions vraiment très très avancés du point de vue agricole, et comment nous étions exportateurs de tel produit, premier exportateur, deuxième, troisième, de tel produit. On a oublié que à cette époque-là, il y avait moins d'importation de produits alimentaires, qu'il y avait même des pêcheries ici chez nous, et qu'on mangeait beaucoup plus local. On a oublié cela. Mais c'est en 1973, avec la zaréanisation, que nous avons commencé à avoir le premier coup et qui a été complété par le pillage de 1993. Donc, ce pays a une histoire et on ne doit pas continuer à inventer la roue. Donc, aujourd'hui, ce que nous devions nous poser une question, pourquoi depuis le départ de Mobutu, parce que Mobutu, avant de partir, il y a eu une longue transition, on n'a presque pas travaillé pour l'économie, c'était beaucoup plus des querelles politiques, mais depuis que Mobutu est parti, il y a eu combien de gouvernements qui se sont succédés, et pourquoi on n'a pas pensé à réhabiliter toutes ces infrastructures qui ont été détruites? Pourquoi on n'a pas pensé à chercher à rentrer sur la voie où nous étions avant, de 1973, et l'époque de la réorganisation? Non. Les dirigeants aujourd'hui, ils sont pressés d'avoir de l'argent, de s'enrichir illicitement. C'est pourquoi ils sont tournés vers les minéraux. Parce que les minéraux, c'est plus facile à les avoir et à les faire sortir, à les vendre, à avoir de l'argent. C'est pourquoi vous allez trouver là-bas toujours des problèmes, des pillages, des problèmes de détournement, de corruption, des 12 milliards de dollars détournés, et les panels de Bakandé, je vais dire on a fait ceci, on a fait cela, mais personne n'en fait un problème et on continue. Parce que les minéraux, c'est plus facile, mais qui est prêt, sans l'amour de la patrie, à aller investir dans l'agriculture quand il sait que la production viendra quand lui ne sera plus là? C'est ça le problème que nous avons, l'absence de patriotisme. C'est ça le problème que nous avons, le problème des anti-valeurs. Mais c'est pas un problème d'argent, c'est pas un problème de manque de moyens, c'est un problème, on n'inventera pas la roue, nous sommes à
on peut revenir à ce que nous avions déjà payé à Félicien, mais vous estimez aujourd'hui que nos choix, comme le disait Alain Bologia, nous avons des choix contradictoires, et pour vous, les choix aujourd'hui sont orientés envers les priorités en fonction de ces intérêts. Pourquoi vous estimez qu'on pense plus investir dans le secteur minier ou on peut plus gagner, ça c'est en termes d'intérêt personnel, que les secteurs agricoles où peut-être on ne trouve pas des comptes dedans, mais là aussi c'est un changement complet de notre vision, de notre façon de voir et de notre gouvernance, on l'a dit plusieurs fois dans ces magazines. Christin, vous êtes à Bumba, rapidement, parce qu'il y a aussi Eli qui est à Mandaka, en 45 secondes chacun. Christin, quel est votre point de vue? Bonjour.
Bonjour, merci beaucoup. En fait, je m'excuse d'abord parce que je suis un peu arrimé. Je suis à Bumba, mais présentement à Bunia, en fait, de passage, je viens sans gérante. En fait, permettez-moi de poser un peu en fait, une motion, telle que nous sommes nombreux là-bas, qui sommes en fait auditeurs piétons, auditeurs en fait de l'occasion, malheureusement. La radio Papi n'y arrive pas, si vous pouvez.
Le plaidoyer va être apporté aux autorités. Bumba, vous êtes précisément dans Bumba, c'est dans quelle nouvelle province exactement? Dans la Mongala.
Mongala.
Oui, et difficile actuellement de capter Radio Capi. Je crois que le message est arrivé. Alors, votre réaction, là, c'est juste maintenant 30 secondes, Christin.
Et par rapport au sujet, je voudrais dire Bumba, en fait, c'est qui a toujours été d'ailleurs un grenier agricole. Nous produisons surtout beaucoup là-bas le riz. Et malheureusement, en fait, suivant les exemples passés, en fait, à l'époque, tel que même l'auditeur qui venait de me précéder l'avait dit, il y a une marque en fait, de politique d'encadrement. On dirait peut-être par manque aussi de volonté, ou soit d'une politique cohérente du pays, parce qu'il arrive des fois dans Bouma que les gens, en fait, disant, puissent cultiver les grandes étendues des champs, et malheureusement, masque des fois, je vous dis si vous descendez là-bas, masque des fois, des masques, en fait, pour arriver à masquer toute l'étendue. Alors que, ils ont la volonté, d'abord, artisanalement, à faire beaucoup mieux.
Et mais si jamais ils étaient encadrés et puis orientés, faudrait-il aujourd'hui un investissement sérieux dans ces secteurs. Merci beaucoup. Oh, vous avez été nombreux. Merci à vous, Christian. Eli, vous êtes en Bandaka. Dommage pour vous. Hein, on pourra bien se retrouver dans le prochain numéro des Paroles aux auditeurs Eli de Bandaka. Merci à tous, tous ceux qui ont contribué dans ces magazines, chacun avec son point de vue autour de cette question liée à la diversification de l'économie de la RDC. Merci beaucoup à toute l'équipe qui nous a aidé à produire ce magazine. Hippolyte Kapanga était à la mise en onde, et Philippe Zabongonda était à la réalisation et au standard, et à qui nous souhaitons un joyeux anniversaire encore pour clôturer ce magazine. Merci à Julien Amouini qui nous a supervisé, et puis Roy Lamé qui vous l'a présenté. On retrouve Parole aux auditeurs sur www.radiocapi.net. Merci, au revoir.